Troisième épisode du podcast Smells Like Teen Music, consacré à la culture des années 90, grunge, alternative rock, power pop, emo core, punk rock mélodique, indie rock, noise et britpop. Du pointu et des gros noms de l'époque, un seul but, repartir le temps de trois quarts d'heure dans les limbes des années 90. C'est futile et divertissant. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. On est là pour se faire plaisir et surtout pour vous faire plaisir. Seb, est-ce que tout roule de ton côté?
Tout va très bien, Sam. Très content de te retrouver pour ce mois de mars 2016.
Ok, donc on va jumper directos dans cette petite playlist du mois de mars. Moi, je commence avec le groupe Ed Swim. Le morceau s'appelle Gone to Pot. Extrait de l'album Flood, sorti en 1994 sur le label EPI, donc du gros, de la major. Premier album pour ce groupe anglais que j'ai acheté à l'époque à sa sortie. Je les avais découverts via l'émission Headbanger Ball sur MTV Europe. Donc là, c'est du grunge à fond, du rock bien épais comme on aime, qui lorgne sur Seattle et sur les grosses machines de l'époque. Pearl Jam en tête. Donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pearl Jam. Vous écouterez la voix, vous écouterez les arrangements et le côté un petit peu 70s rock aussi. Un groupe complètement oublié, mais un disque qui vieillit hyper bien. Voilà. Le deuxième album verra le jour en 1997. Par contre, beaucoup plus lisse et beaucoup plus dans un trip pop calibré. Donc beaucoup moins intéressant, beaucoup moins bien. Je l'ai acheté aussi à sa sortie. Mais je l'ai beaucoup moins écouté, ça faut être honnête. Donc un disque plutôt chiant, un deuxième album. Donc on va garder Ed Swim pour ce premier album, Flood. On s'écoute ce morceau, Gone to Pot.
Backwards.
Allez, maintenant c'est à mon tour de balancer mon titre. Alors moi j'ai choisi Swerve Driver et Duel. Alors ceux qui jouaient à Road Rash au début des 90s vont forcément reconnaître le titre que j'ai choisi parce que il tournait pendant le jeu Road Rash. Donc ce titre Duel des Anglais de Swerve Driver, c'est un extrait de leur deuxième album Mezcal Head, sorti en 93. Je sais pas si tu te rappelles cet album, Sam.
Je l'ai eu en cassette, ouais, mais c'est pas un groupe que j'ai écouté énormément, j'ai jamais accroché en fait, j'ai trouvé ça tout le temps un peu noisy, un peu relou à écouter quoi, en fait.
Alors justement, le Swerve Driver qu'on va s'écouter, c'est un Swerve Driver qui est en pleine mutation en fait. Les débuts du groupe et l'album précédent, le premier, avaient vraiment, comme tu dis, des racines noisy, shoegaze, et puis après la formule a évolué progressivement vers un truc beaucoup plus calibré, et donc Mezcal Head, le titre de l'album pardon dont est issu Duel, mais c'est justement l'album de la transition vers quelque chose de beaucoup plus pop, on va dire. C'était sorti chez Creation Records, c'est un label qui tout au long des années 80 et puis des années 90 a eu du flair pour dégoter de belles signatures. Alors parmi ces signatures, il y avait notamment, moi que j'ai vachement écouté, The Jesus and Mary Chains, My Bloody Valentine, il y avait Ride aussi. Tu te rappelles un peu de ce label, Sam?
Ouais, Création. Ouais, bah c'était un label qui était quand même branché, comme tu disais, des trucs un peu shoegaze et puis un peu cotonneux, quoi, on va dire.
Complètement cotonneux, ouais. Il y avait aussi Slow Dive, il y avait Teenage Fan Club, etc. Bon, en tout cas, moi, je garde un excellent souvenir de cet album de Swerve Driver de 93 et on va tout de suite s'écouter Duel.
You can't
On enchaîne avec un truc à peine plus mélodique, Buffalo Tom, le morceau Summer, extrait de l'album Sleepy Eyed, sorti en 1995 sur Beggar's Banquet, un groupe de Boston. Donc Buffalo Tom, c'est un des ambassadeurs de la scène alternative rock, college rock et indie américaine des années 90, donc un gros nom, hein. Pour moi, ce Summer, c'est clairement le meilleur morceau de leur carrière, si on me pose la question. Tout en mélancolie, tout en pop rugueuse, lancinante et habitée. Hein. Un scud qui était produit par John Aniello, un gros nom de la production de la scène
Très
indie
gros nom, ouais.
américaine, qui avait produit Dinosaur Jr., Sonic Youth, qu'est-ce qu'il avait produit encore? Jawbox, Screaming Trees, et des dizaines, voire même des centaines d'autres. Buffalo Tom, un groupe que l'on peut accoler à bah, pas mal de noms. Dinosaur Jr., bien sûr, Superchunk, Lemonheads, même Smashing Pumpkins, les Posies, et tous ces rois du mouvement alternatif ricain d'il y a un peu plus 20 ans. Voilà, donc ce morceau est sorti sur l'album Sleepy Eyed, je vous l'ai dit, mais moi j'ai pas cet album, j'ai un best-of qui est sorti dans les années 2000 qui s'appelle Aside from Buffalo Tom. Si vous voulez bah, écouter en vitesse ce que faisait de mieux Buffalo Tom sur toute sa carrière, je vous conseille ce best-of et ensuite vous creusez Buffalo Tom. On s'écoute ce morceau, Summer.
Letters on the ground, seven
Alors, pour la suivante, on va changer un petit peu de pays. On tape souvent dans l'Angleterre, on tape souvent vers les États-Unis. Et on oublie qu'au Canada aussi, dans les 90s, il y a eu une super scène. Et le groupe que j'ai choisi, eh bien, il est justement canadien. Il est de Toronto et il a eu son heure de gloire qui a été très courte, on va dire les années 92-93. Ce groupe, c'est High Mother Earth, un groupe assez inclassable. J'ai du mal à y trouver une étiquette, mais bon, est-ce que c'est bien nécessaire? Ça se situe
Fusion, hein.
peut-être un peu
Je crois que.
entre James Addiction, Blind Melon, Pearl Jam. Qu'est-ce que t'en passes?
Alors, moi, je pense que l'étiquette fusion colle complètement à ce qu'ils font, quoi.
On aurait pu mettre fusion. C'est vrai, il y a vraiment tout le côté funk qui est autour de ce groupe. Tu t'as écouté à l'époque, Sam, ou pas?
J'ai écouté ce. Bah, c'était dur de passer à côté, quand même. C'est un truc qui tournait beaucoup, surtout ce morceau-là, qui passait beaucoup sur mon MTV, sur les trucs, même MCM, sur toutes les chaînes un peu musicales. Hein. Ça passait dans les bars, dans les. Voilà, donc un gros truc. Mais moi, j'ai jamais écouté ce groupe-là. Effectivement, il y a un côté James Addiction, mais en FM, quoi. On va dire James
Ah ouais,
Addiction
beaucoup plus
FM, ouais.
accessible, ouais. Beaucoup plus accessible que le grand James Addiction. Alors comme tu dis, tu parles de MTV, on peut pas si bien dire, parce que moi aussi je l'ai découvert sur MTV à l'époque où il était, comme on disait, en heavy rotation. Il y avait eu quand même quatre singles extraits d'album Dig de 93. Album, on va dire, instant de gloire éphémère pour le groupe, parce que franchement le reste était vraiment pas à la hauteur de cet album inaugural. Alors il avait été produit par Mike Clink, le gars qui avait fait aussi l'Appetite for Destruction de Guns N' Roses. C'est peut-être ça aussi qui avait attiré quelques personnes autour du groupe.
Ouais,
Bon,
ça
je pense
prouve
pas.
aussi que c'est de l'énorme production, hein. Je pense que quand t'en arrives à bosser avec Mike Clink, c'est que derrière, il y a de l'énorme artillerie, quoi.
Ah ouais, puis en plus ils avaient été signés directement sur Major. Bon voilà, si y a un album à retenir de la discographie de High Mother Earth, c'est évidemment ce Dig. Le suivant, Scenery and Fish, est pas trop mal, mais quand même pas du tout à la hauteur de ce premier album. Et puis après, ben voilà, c'est un groupe qui est tombé complètement dans l'oubli. Et moi, il m'arrive encore de ressortir ce disque parce que je suis un 19 addicts. Mais sinon, franchement, je pense qu'il y a peu grand, il y a pas grand monde qui doit se souvenir de High Mother Earth. En tout cas, on va s'écouter ça tout de suite avec un titre très très long, comme pas mal de titres de cet album. Celui-là fait 6 minutes, donc on va se retrouver juste après. Voici Not Quite Sonic.
retourne vers le côté un peu plus punk de la force avec The Marches. Le morceau s'appelle Obnoxious, extrait de l'album Fledgling, sorti en 1996 sur Beatscore Records, en tout cas pour la licence européenne de cet album, hein, une structure allemande à l'époque. Un groupe de Northampton dans le Massachusetts, fondé autour du batteur Colin Sears, un mythique batteur de la scène punk-ricaine, hein, qui avait joué chez les excellents Dagnasty, bien sûr, chez
Ouais.
Alloy aussi, le groupe de Vic Bondy. Ce titre est issu de leur deuxième album. Ils en ont sorti quatre. Le dernier, Recluse, il est sorti en licence sur un label français, Kerosene Records, hein, le label
Ah
du
ouais, exact,
fameux
j'avais oublié.
fanzine français de l'époque. Ils ont splitté juste à la sortie de cet album. Je me rappelle que Dan avait monté quelques dates en France et en Europe. Ça devait tourner avec Unlogistique. Et en fait, ils sont jamais venus. Ils ont annulé au tout dernier moment. Donc voilà pour ce qui Il y a des marchis, c'est dommage. Donc, ce groupe, c'est grosso modo tout ce que j'aime dans le trip punk ricain, hein, une voix très singulière, mais qui laisse des traces, un jeu super tendu, des mélodies qui font mouche pour une formule qui va droit à l'essentiel. Donc, un groupe beaucoup plus original que la plupart
La
des groupes
moyenne.
de punk mélo californien, qui sonne comme personne d'autre. Voilà, un groupe qu'on cite que trop rarement quand on évoque le punk mélodique des années 90. On s'écoute ce morceau de The Marches, Obnoxious.
Let it come since you put it there.
titre suivant, puisque c'est mon tour, Sam, d'envoyer, je te propose d'écouter Me donner avec Halloween. Alors, la particularité de ce titre, c'est que, effectivement, les puristes pourront nous dire qu'il date de 1988, ce qui est vrai puisqu'il est sorti chez Sub Pop en 88, mais il a fait l'objet d'une sortie européenne en 1990 chez Glitter House. Donc, ça passe juste, mais ça passe pour notre sélection. Le titre que j'ai choisi, il s'appelle Halloween. C'est un titre qui est extrait d'un split qui avait été fait avec Sonic Youth. Me donner reprenait donc ce titre de Sonic Youth, tandis que Sonic Youth reprenait le Touch Me I'm Sick, que tout le monde connaît, évidemment. Alors, que te dire à propos de Me donner? Ben, perso, c'est mon groupe préféré de toute la vague Seattle. Ben, pour son authenticité, son opiniâtreté, franchement, Me donner, il sonne comme personne d'autre. C'est aussi un groupe que j'ai eu la chance de découvrir très tôt. Tout ça grâce à la complicité d'un disquaire exceptionnellement défricheur qui s'appelait Watt Albi et qui était tenu par un mec qui s'appelait Marc, un mec qui m'a mis dans les mains tout un tas de disques qui sont devenus des classiques par la suite. Il avait très très bon flair pour dégoter ce genre de choses, et le disque en question, c'était le premier EP Super Fuzz Big Muff, qui avait fait l'objet d'une sortie avec tous ces petits singles des premiers Me donner, et donc j'avais découvert ça comme ça. La dernière petite anecdote sur Me donner, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années, tu étais passé à la maison chez moi, et tu tournais avec Simon Chenso, et dans la bande qui t'accompagnait, il y avait un Roddy super sympa avec qui j'avais sympathisé, qui s'appelait Demo, et qui était un énorme fan de Me donner. Et il a eu la chance de les voir plusieurs fois en concert, ce qui n'est pas mon cas parce que ils sont très peu souvent venus en France. J'ai jamais eu l'occasion de les croiser. Je sais pas si c'est ton cas.
Non, j'ai jamais vu Me donner. Donc Me donner, effectivement, un groupe qui a été labellisé dans la case grunge, mais qui était clairement un groupe de garage, hein, rien de plus. Par rapport à ce que faisait Nirvana ou d'autres trucs, c'était clairement moins épais, quoi, on va dire, quoi. Donc non, je les ai jamais vus. C'est un truc que j'écoutais à l'époque et c'est clairement un truc que j'ai du mal à réécouter maintenant, en fait. Je trouve que ça a vraiment pas très bien vieilli. Puis voilà. Bon, après, le chanteur, c'est vraiment un esthète du style, hein. En plus, un mec archive, un espèce d'historien, hein, de Seattle, de la musique. Mais bon, qui est vraiment branché garage pour le coup, et ça sent dans le jeu, et voilà. Donc, Me donner, je réécoute très, très, très peu souvent. Je connaissais pas cette reprise de Sonic Youth. Par contre, je réécoute beaucoup plus facilement Sonic Youth. Et pendant qu'on y est, je vais préciser que je suis en train de lire le bouquin de Kim Gordon, la Girl in a Band. Qui a été traduit en français, qui a été plutôt pas mal traduit, hein. Faut le préciser, parce que généralement les traductions de biographie, c'est pas terrible. C'est sorti chez l'éditeur Le Mot et le Reste. Voilà, Girl in a Band. Elle raconte son histoire au sein de Sonic Youth, mais c'est sous forme de mémoire. Et donc, ça barre dans d'autres directions aussi. Un livre que je conseille. Voilà, on s'écoute ce morceau.
Voilà, Me donner Halloween.
On arrive sur la fin de cet épisode déjà, donc on va attaquer la sélection française, hein, puisque c'est le rituel. Cette fois-ci, j'ai choisi Six Pack. Le morceau s'appelle An Eye for an Eye, extrait de l'album Reading History, sorti en 1998. Donc un disque que j'ai acheté directos à sa sortie. Un groupe de Saint-Étienne. Hein, ils ont été une grosse influence quand on a fondé Second Rates. On était focalisé tout simplement sur la même scène, sur les mêmes groupes ricains. Je pense notamment à Uskurdju, à Moving Targets, Alloy. Je pense aussi à Jones Very. Eux avaient ce petit côté, on va dire, dissonant en plus, moins mélodique, un truc qui les rapprochait de l'écurie Discord. Il y avait un petit côté Fugazi dans leur formule aussi. Ils ont sorti deux albums, quelques splits de ci, de là. Ils se sont séparés peu de temps après la sortie de ce Reading History. C'est fort dommage. Encore un groupe français majeur qui n'est malheureusement pas assez cité et pas assez remercié. On répare cette erreur et on s'écoute ça, Six Pack, An Eye for an Eye.
Allez, pour terminer la sélection, je vais vous proposer moi aussi un petit groupe français, encore que petit, vraiment pas un mot qui s'adapte à ce groupe, tellement il a été énorme en hein, ce qui me concerne pour les 90s, c'est Skippies, les Rennais de Skippies, un groupe qui, paraît-il, a débuté comme un cover band de The Saints, avant de virer Garage Punk, puis finalement Noise Grunge. Je vous rassure, moi c'est vraiment la facette Noise Grunge qui m'intéresse le plus. Alors le choix n'a pas été facile car ils ont laissé un super héritage, les Skippies. Bon, finalement j'ai choisi de taper dans le deuxième album, Massive, un album enregistré à New York avec un gars qui avait bossé avec Sonic Youth. Le disque est sorti au printemps 95 sur Roadrunner, c'est dire si Skippies était prometteur. Bon, malheureusement les ventes n'ont pas suivi. Si j'en crois ce que j'ai trouvé sur le web, ils ont vendu à peu près 5000 albums. Qui est pas si mal, mais bon. Skippy s'est un peu brûlé les ailes sur ce disque et ça restera un petit peu comme leur apogée artistique, Massive.
Ouais, alors donc ouais, Skippies, effectivement, ils avaient signé sur ce gros label, la Roadrunner, et ça participait d'une fournée là qui suivait les Tugs, hein, en fait. Je pense qu'ils
Ouais, il y
sont
avait eu
rentrés
Dirty Hands aussi.
Dirty Hands, et il y avait un groupe énorme dont on parle vraiment jamais, qui s'appelait Cut the Navel String. Un groupe Noise, pareil, qui avait signé sur Roadrunner en même temps que Skippies, voilà. Donc Skippies, on peut vraiment les accoler à Drive Blind, puisque c'est exactement la même carrière, et je pense que Skippies regardait vraiment ce que faisait Drive Blind à l'époque, c'est-à-dire de partir sur un rock mélodique, un peu rock'n'roll, rock australien, et avec ensuite le boom de l'explosion grunge et rock indie américain. Et pour finir ensuite avec de la noise, quoi, en fait, de la noise plutôt massive. Et c'est exactement le chemin qu'a suivi Drive Blind aussi. Skippies, pour moi, clairement un groupe moins important que Drive Blind, hein, dans ce qu'ils ont apporté sur la scène française. Et c'est pas vraiment un hasard si, quand on parle de la scène française, en fait, ces groupes-là, on n'en parle plus du tout. Parce que c'est arrivé sur une espèce de formule major, mais je pense que ça a laissé vachement moins de traces que des groupes comme, en tout cas en ce qui me concerne, Sixpack ou des trucs beaucoup plus petits qui vendaient moins d'albums, qui ont été moins médiatisés, mais qui ont laissé une empreinte plus profonde dans la scène française. Voilà pour Skippies, j'ai croisé les mecs genre quelques années plus tard, puisqu'ils ont joué ensuite, et jouent encore peut-être, je suis pas trop au courant, mais dans Bikini Machine, voilà un groupe électro-rock avec des petites accointances surf. Et voilà, c'est aussi, ça prouve aussi peut-être que ce genre de groupe faisait des styles un petit peu, tout ce qui était un peu en vogue, sans vraiment creuser, quoi.
C'est clair, un petit côté plus versatile, on va dire,
Ouais,
dans
clairement.
les options qu'ils ont prises. Ouais. J'ai oublié d'ajouter qu'ils avaient vachement tourné à l'époque avec Sloy. C'était deux groupes qui tournaient tout le temps ensemble, quoi.
Voilà, bah, qui était un peu du même coin, hein, l'ouest de la France, je crois. Ouais, voilà. On
Bon, mais on
sait.
va s'écouter tout de suite Massive alors, avec
Voilà.
les Skippies.
Allez.
Thank you.
Donc c'est déjà la fin, donc on se revoit ben, dans un gros mois, hein. Donc je sais pas quand, en ce moment mon planning est plutôt chargé, là je suis sur la route avec Cab Driver Stories, voilà, si vous voulez jeter un coup d'œil sur ce groupe, hein, si vous aimez le son des années 90 et tout ce qui rapproche, ben n'hésitez pas, cabdriverstories.fr, on a une page Bandcamp. Toutes les infos sont sur mon site www.likesunday.com. Donc comme je disais là, les prochaines semaines sont plutôt incertaines de mon côté. J'y verrai plus clair au mois d'avril et mai. Donc voilà, en espérant quand même qu'on trouve 3 quarts d'heure, 1 heure, Seb, pour se réenregistrer un petit podcast.
Il n'y aura pas de souci de mon côté, c'est toujours avec grand plaisir.
J'espère que vous avez apprécié cette petite sélection musicale nostalgique. On se dit à bientôt. Le mot de la fin, comme d'habitude, Seb, est pour toi.
Ben, on se retrouve dans un mois, comme l'a dit Sam, et j'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble. Et donc n'hésitez pas aussi à nous faire partager des petites idées de playlists ou autres. On sera largement preneurs.
À très bientôt. Restez bien droit, les gars. Ciao, bye.
Salut!